Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai pris le risque de ne pas avoir de micro dans les mains. J'aimerais juste faire un premier test. Est-ce que tout le monde m'entend jusqu'à l'arrière de la salle? Ça va bien? Alors, si vous perdez ma voix entre-temps ou si ma voix commence à s'érailler au cours de la conférence, vous me ferez un petit signe, on viendra m'apporter un micro. Alors, ça me fait plaisir d'être ici ce midi avec vous. Je vais me présenter aussi de façon un petit peu plus personnelle. Alors là, on m'a introduit d'une façon professionnelle. Ce que j'aimerais aussi que vous sachiez de moi, c'est qu'avant de faire le métier que je fais présentement, c'est-à-dire consultant en développement organisationnel, j'ai travaillé dans le monde du théâtre et des communications. Alors, j'ai eu la chance, dans les cantons de l'Est, de toucher à plusieurs domaines. J'ai fait du jeu, de l'interprétation, de la mise en scène, du coaching d'interprétation également, de la voix hors champ pour la radio et la télévision. Et c'est un domaine qui me passionnait vraiment. Toutefois, quand j'ai été tanné de mourir de faim, j'ai décidé de me réorienter parce que ce que je m'étais rendu compte de ce qui me fascinait le plus, entre autres quand je faisais de la mise en scène, j'avais à diriger des gens. Et ce qui me fascinait, c'était la dynamique interpersonnelle, la dynamique de l'équipe de travail. Il y avait des jeux de pouvoir, il y avait de l'influence qui se faisait, il y avait toutes sortes de rouages. Les comédiens tombaient en amour avec les comédiennes avec les comédiens avec les comédiens. Il y avait toutes sortes de... Le bordel était pogné. Et moi, ça me fascinait de voir ce qui se passait dans les interactions entre les individus. Alors, je suis retourné à l'école et je suis allé me spécialiser en psychologie pour mieux comprendre le comportement humain. Et ça m'a amené à développer mon expertise pour intervenir auprès des équipes de travail et... C'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de vous entretenir sur le thème de la manipulation. Alors, pourquoi parler de manipulation? Parce que premièrement, vous le savez aussi bien que moi, c'est un type de comportement qui est associé beaucoup aux personnalités difficiles dans le milieu de travail. Alors, je vais quand même vous présenter ce que c'est dans un premier temps. On va faire du ménage un petit peu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la manipulation comme phénomène? Qu'est-ce que ça implique? De quoi il s'agit quand on parle de manipulation? Dans un deuxième temps, on va voir un petit peu, j'ai intitulé le titre de ma conférence « Les comportements manipulateurs, les repérer et les déjouer ». Alors, on va voir d'abord comment les repérer, pouvoir les identifier, ces comportements manipulateurs-là, et ensuite les déjouer. Alors, pour avoir des stratégies dans notre sac pour pouvoir y faire face. Ça va? Alors, quand on parle de manipulation, c'est un mot qu'on entend souvent. On parle des manipulations dans le monde capitaliste, on le sait, on est manipulé par l'économie, on nous pousse à acheter, à consommer, à dépenser toujours plus, on est dans une société de consommation, tout le monde le dit, ce qui est en quelque part une sorte de manipulation. On a la manipulation du monde médiatique, on manipule l'information. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les grands réseaux d'information télévisuelle, je ne sais pas si ça vous est arrivé de zapper d'une chaîne à l'autre, par exemple de TVA, Radio-Canada, il y a des fois où ils vont pousser l'audace jusqu'à présenter toujours les mêmes nouvelles et dans le même ordre chronologique et presque en même temps. Mais c'est extraordinaire, vous ne trouvez pas? C'est quand même extraordinaire. Il y a plus que 6 milliards d'humains sur la Terre et si on se concentre juste sur notre région, il y a tellement d'entreprises, il y a tellement de personnes, il doit s'en passer des choses, il doit avoir des nouvelles à raconter. Comment ça se fait que c'est exactement les mêmes nouvelles, en même importance, dans le même ordre? On peut supposer effectivement que dans le monde médiatique, l'information est manipulée, c'est-à-dire qu'il y a des filtres qui sont exercés et on choisit ce qu'on va nous présenter, ce qu'on ne nous présentera pas, ce qui est important, ce qui va faire sensation de ce qui ne le fera pas, etc. Alors, il y a de la manipulation aussi de ce côté-là. On parle des manipulations politiques, mais là, je suis en terrain miné, je suis dans un ministère, alors je ne m'étendrai pas sur la question. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous proposer un petit échange. Mais vous savez, la manipulation, ça se retrouve dans tout. On parle même dans la vente, la publicité, on essaie toujours de nous faire acheter de plus en plus. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Il y a même des recherches qui ont été faites à un moment donné, quand on sollicite les gens... Donnez, madame, généreusement pour telle campagne, telle fondation. On demande aux gens d'être généreux. Et là, il y a des chercheurs qui ont fait une petite expérience. Ils ont demandé aux gens qui sollicitaient d'ajouter simplement la phrase suivante. Un petit 25 cents, ça peut suffire. Et ce qu'ils ont observé, c'est que juste en rajoutant cette phrase-là, les dons augmentaient de 28 à 50 de plus. Les gens se disent, « Ah non, je n'ai pas d'argent à donner pour ça. » Un 25 cents, monsieur. coûte-tu 25 cents? Dans le fond, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose. Et là, on sort en notre chance. Ben, là, je ne suis pas pour donner juste 25 cents, on va avoir la cheap. Hein? Fait que là, on sort et puis finalement, on se ramasse qu'on en donne, dans cette expérience-là, 15 fois plus que ce qui était demandé au départ. Alors, voyez-vous, on a des stratégies, des techniques de manipulation dans tous les domaines. Alors, l'échange que je vous propose juste avant de débuter sur les comportements manipulateurs comme tels, c'est un petit échange ou un débat, tout dépendamment de votre personnalité. Alors, un petit échange sans vous déplacer avec les personnes qui sont assises à vos côtés. Vous allez avoir à vous positionner, à savoir est-ce que vous êtes plutôt en accord ou en désaccord avec ce que vous allez voir à l'écran. Donc, vous allez voir défiler trois affirmations. Et ce que je vous demande, c'est de vous positionner en à peu près 5 secondes. Alors, vous lisez ce qui est à l'écran, vous faites une tête, et en 5 secondes, vous dites, est-ce que je suis plus en accord ou en désaccord avec ça? Et ensuite, je vous offre 30 secondes, avec les gens autour de vous toujours, pour échanger et savoir, bien, est-ce que ma voisine ou mon voisin a la même opinion que moi à ce sujet-là? Et ensuite, on va revenir en plénière. Alors, ça va se passer très vite, dans une minute et demie, on va être de retour ensemble. Ça va? Prêt à jouer le jeu? On part. Alors, est-ce que vous êtes en accord ou en désaccord avec cette première affirmation? Alors, je vous laisse en discuter 30 secondes entre vous. Alors, nos 30 secondes sont écoulées. La deuxième affirmation. Alors, votre 5 secondes individuelle est écoulée. Vous avez 30 secondes ensemble pour en discuter. Très bien. Alors, la dernière affirmation. Alors, je sais que vous auriez beaucoup à dire sur ce thème-là. Alors, j'aimerais peut-être avoir quelques échos de vos discussions enflammées. Alors, notre première affirmation qui était « Les manipulateurs sont des gens de pouvoir. » Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient me dire ce qu'ils ont pensé de ça? Oui. Entre autres. Alors, pas juste eux autres, il y en a d'autres, c'est ça? Alors, il y a des gens de pouvoir qui sont manipulateurs et il y en a qui ne le sont pas, c'est ça? OK, oui. Oui?
Moi, je suis tout à fait en désaccord avec ça pour la bonne raison que tu peux manipuler un bout de temps, mais pas longtemps. René Lévesque, il n'aurait jamais eu l'écoute qu'il avait s'il avait manipulé. Donc, pour être de pouvoir, il faut que tu sois authentique, donc tu ne peux pas manipuler.
Ah, OK. Donc, c'est intéressant. Ce que vous amenez, c'est... Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il faut être authentique, c'est ce que le mot que vous avez employé. Sinon, on ne dure pas. Hein? On ne reste pas au pouvoir longtemps si on manipule. Ça prend pas longtemps que le jeu est dévoilé. Alors, intéressant. Un dernier... Oui?
Pas tout le monde qui est authentique, justement. C'est là le problème. C'est là que ça arrive, justement.
C'est pas tout le monde qui est authentique.
Il y a des gens de pouvoir qui vont le faire quand même. Il y a des gens qui sont authentiques, ceux-là, c'est sûr. Faire attention à ça, mais c'est pas tout le monde.
Alors, c'est pas tout le monde, effectivement, et il y a différentes personnes au pouvoir, donc il y a différentes façons d'agir quand on est au pouvoir également. Maintenant, alors vous voyez déjà, il y a des avis qui sont partagés sur cette affirmation-là. La seconde, je vais revenir par rapport au pouvoir, tout simplement, en vous disant que quand on parle de gens de pouvoir, on parle de quoi exactement? Puis je vous dirais, c'est un mot qu'on entend souvent, hein, dans nos discussions de tous les jours, au travail aussi. On parle de pouvoir, on parle de gens de pouvoir, on parle des gens qui ont du pouvoir, des gens qui n'en ont pas. Et souvent, des fois, je fais l'exercice de demander à des auditoires, c'est qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot pouvoir? Et là, ce qui est étrange, c'est que souvent, ce que j'ai comme commentaire, ça va être pouvoir, ça peut être puissance, mais j'entends aussi dictature, manipulation. C'est comme si inconsciemment, le mot pouvoir était associé à abus de pouvoir. Alors que dans d'autres contextes, ce n'est pas nécessairement le cas. Hein. Je pense entre autres aux gens qui ont la faculté de prendre leurs besoins en main, de prendre leur vie en main. Ce qu'on va dire dans ce cas-là, c'est qu'ils prennent leur pouvoir en main. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui est bénéfique. Pourtant, ce n'est pas toujours associé à quelque chose qui est sain. Alors, je vais vous proposer tout simplement, avant de parler de comportement manipulateur, de clarifier un petit peu tous ces concepts-là. Et quand on parle de pouvoir, d'influence, est-ce que c'est la même chose dont il s'agit? Alors, le pouvoir, ce que je pourrais vous dire d'emblée par rapport à ça, c'est quelque chose, c'est une capacité qui nous permet de faire en sorte qu'une autre personne va agir différemment à cause de notre intervention. Donc, cette personne-là va agir d'une façon autrement que ce qu'elle aurait fait si on n'était pas intervenu. Donc, notre intervention permet à une autre personne de modifier quelque chose dans sa façon d'être ou dans sa façon de faire. Alors, quand on réussit ça, ce qu'on dit, c'est qu'on obtient du pouvoir. Et souvent, l'expression qu'on entend, c'est « avoir le pouvoir ». C'est comme si c'était quelque chose qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait posséder. Bien, c'est exact. Alors, on pourrait le définir comme ça. On peut avoir du pouvoir. C'est comme de l'argent. Hein? On peut en avoir, mais on peut en perdre aussi. Et qu'est-ce qu'on fait pour en obtenir? On influence. On va essayer d'utiliser toutes sortes de stratégies d'influence, hein? Que ce soit en réunion de travail, que ce soit directement avec notre patron, avec nos collègues, avec nos employés, peu importe. On va essayer d'influencer pour faire en sorte d'obtenir ce qu'on cherche, d'obtenir le pouvoir, d'obtenir ce qu'on veut. Alors, le pouvoir, c'est un résultat, hein? C'est un gain. Et quand on influence et que notre influence réussit, quand on dit hey, « j'ai réussi à influencer le comité, ils ont penché, la décision a penché de mon bord, j'ai gagné », alors ce qu'on pourrait conclure, c'est que dans cette situation-là, vous avez obtenu du pouvoir, vous avez eu gain de cause. Quand on parle de stratégie d'influence, on parle plus d'un processus. Alors, c'est un processus d'influence qui nous amène au résultat, le pouvoir. Et vous savez, je comparais le pouvoir à de l'argent, hein, qu'on peut avoir, qu'on peut perdre. Il y a des gens qu'on dit, ce sont des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des gens qui ont gagné souvent, qui ont réussi à influencer positivement pour obtenir ce qu'elles souhaitaient obtenir. Voyez-vous? Elles ont obtenu que des personnes agissent différemment à cause de ce qu'elles ont dit ou de ce qu'elles ont fait. Mais quand on influence, il y a différentes façons d'influencer. Si on veut obtenir de l'argent, on peut travailler, on peut en emprunter, on peut en voler, on peut frauder. Il y a différentes façons pour obtenir le pouvoir. Alors, on peut suggérer, on peut inviter, on peut imposer, on peut manipuler. Alors, voyez-vous, la manipulation, c'est autour de ça ici, autour de l'influence. Hein? La manipulation, c'est un processus d'influence. Mais on n'est pas obligé de manipuler pour obtenir du pouvoir, sauf qu'il y a certaines personnes qui vont user de stratégies pour le faire, pour obtenir le pouvoir. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Quand on parle d'autorité, hein, quand on parle des gens de pouvoir, on fait référence à des gens qui sont en situation d'autorité, qui ont un rôle formel dans une organisation, qui ont, hein, c'est pas compliqué, c'est le boss, hein, ou c'est le cadre supérieur, ou le vice-président, ou le directeur général. Alors, ce sont des gens qui ont un statut dans une organisation qui leur permet d'appliquer des sanctions. Alors, ce que ça fait, c'est que ces gens-là peuvent aussi influencer pour avoir du pouvoir. Jocelyne, est-ce que tu pourrais terminer le dossier? Ah, ben non, j'ai pas le temps. Ben écoute, Jocelyne, c'est parce que si tu ne le termines pas, moi, je te retire le dossier puis je le transmets à ton collègue. Alors, voyez-vous, ils peuvent appliquer des sanctions. Ils peuvent décider de dire, bien, écoute, Jocelyne, ça ne fait pas, tu as un rendement satisfaisant, on t'envoie un avis disciplinaire, ou on te met à la porte, ou peu importe, là. Alors, ils peuvent recourir à des punitions, si vous voulez, à un autre terme que sanctions, pour obtenir leur pouvoir. Alors, il ne faut pas confondre, par contre, la personne qui est en poste d'autorité avec le leader. On parle de leadership dans un groupe. Hein. Il y a des personnes dans un groupe qui prennent spontanément leur leadership, hein. Il y a des leaders qui sont dans le réseau informel, hein, qui ne sont pas nécessairement officiellement les boss, mais qui, de par leur expertise, de par leur personnalité, réussissent à influencer et obtiennent du pouvoir également. La différence entre les deux, c'est que les leaders, on n'est pas obligé d'accepter leur influence. On choisit de le faire. Hein. On trouve que leurs idées sont intéressantes ou on trouve que leurs valeurs sont intéressantes. On a le goût de les suivre. Par contre, notre boss, on n'a pas le choix de le suivre. Et ce n'est pas rare de voir des gens qu'on va dire des grands leaders, hein, mais à partir du moment où ils quittent leur poste, qu'ils ne sont plus en situation d'autorité, ils perdent tout leur pouvoir également. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient d'influencer uniquement en se servant de leur autorité. Alors qu'il y en a d'autres qui vont davantage utiliser leur charisme, leur expertise, leurs idées, leur créativité. Voyez-vous? Alors ça, c'était pour démêler un petit peu les cartes par rapport à tout ce qu'on entend sur l'influence, le pouvoir, etc. Ça va jusque-là? Alors, je poursuis la deuxième affirmation qui était « La manipulation au travail est une forme de harcèlement. » Vous avez dit quoi de ça? Oui? Non? Ah, il y a déjà des avis partagés. Il va-t-il y avoir du sang? Oui.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Alors, ce que tu nous dis, bon, déjà, il y a un discours de mauvaise manipulation, ça sous-entend qu'il y a peut-être de la bonne manipulation? Effectivement. Et ce que tu amènes aussi comme point, c'est que ce qui est intéressant, il correspond aussi à ce que je voulais vous jaser aujourd'hui par rapport au harcèlement. C'est ce que tu as dit est juste, c'est-à-dire que quand c'est de la manipulation, hein, qui arrive souvent, qui est répétée. Hein, si, par exemple, vous entendez des commentaires désobligeants, comme par exemple, « Merci pour ton erreur. » Tu te trompes toujours. Ah. Ah, oh, elle est sérieuse en plus! Hey, tu nous fais-tu attendre exprès? J'ai aucun souvenir de ça. Ah, ben si c'est comme ça, es-tu capable de penser toute seule? Ah, hey, c'est de toi la mauvaise idée. Tu m'as jamais envoyé de message. Tes arguments, là, ça ne tient vraiment pas la route, là. Alors, voyez-vous, on est loin du un commentaire ou deux entendu à l'occasion au cours d'une réunion. Hein. Quand il commence à en avoir là, plein de gazon, là, bien, c'est là qu'on commence à parler de harcèlement. Alors, il faut distinguer manipulation et harcèlement. En ce sens que, effectivement, comme le soulignait madame, on va parler de harcèlement. Et ça, la législation sur le harcèlement psychologique au travail est très claire. Pour prouver qu'il y a harcèlement psychologique au travail, il faut qu'il y ait eu une suite répétée. Hein. Ce n'est pas juste un commentaire ou deux entendus à un moment donné. Hein. Il faut que ça soit systématique, qu'il y ait une fréquence et que ça soit répété dans le temps. Ou bien que ce soit un commentaire grave qui porte vraiment préjudice à la personne. Alors, on peut parler. Alors, la manipulation peut devenir du harcèlement, mais pas nécessairement. Oui?
Ça
Effectivement. Donc, ce que madame dit, c'est que ça ne sert pas à atteindre un but dans l'organisation, mais ça sert à écraser quelqu'un. Je retiens ce mot « écraser-là » et tu vas voir tantôt, on va définir ce que c'est que la manipulation et ça se rapproche effectivement de quelque chose comme ça. Ça va? La dernière affirmation, je ne manipule pas mes collègues de travail. Alors, qui aurait levé la main? Je voulais m'amuser un petit peu. Est-ce que vous pensez manipuler ou ne pas manipuler vos collègues de travail?
Ça peut arriver.
Oui. Ça peut arriver? OK. Alors, il y en a qui disent, je ne prendrai pas de chance, d'un coup, qui disent que... Bien, en fait, ça pose cette affirmation-là pose la question, est-ce que tout le monde manipule? Hein? Est-ce qu'on est tous toutes des manipulateurs et des manipulatrices en puissance? Bien, oui. Effectivement, tout à fait. Et je vous dirais, à divers degrés, hein, c'est un petit peu comme, mettons qu'il y a deux catégories de gens. Il y en a qui vont manipuler un petit peu comme quand on est au régime. Hein, on va juste comme prendre un petit coin de l'assiette. Hein, c'est juste des petites stratégies de manipulation de temps en temps. Ça fait pas mal, écoute. Hein. Il y en a d'autres, par exemple, qui en face dans le buffet. Ça prend pas de temps que, let's go, on manipule. Hein, c'est le fun, écoute, ça magouille, ça manœuvre. Hein, tout ce que je peux faire, moi... Pour arriver à mes fins, je le fais. Alors, tassez-vous, moi, je suis en bulldozer. Alors, s'il y a du monde sur mon chemin, c'est just too bad. Alors, il y a différents types de personnes, effectivement. Et si tout le monde manipule, tout le monde ne le fait pas au même niveau. Et évidemment, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe quand c'est à ce niveau-là. Parce que quand on est ici, habituellement, ça ne nous pose pas trop de problème. On est capable de contrecarrer un petit peu les coups. Mais quand il y en a beaucoup... ça peut devenir lourd à porter, et c'est lourd de conséquences. En fait, je vais m'attarder, pour ce qui va suivre, à décrire non pas les personnalités manipulatrices, hein, ou les manipulateurs, comme on les appelle, mais plutôt les comportements de manipulation. J'aime mieux ce terme-là parce qu'en fait, quand on parle de comportement de manipulation, on ne vient pas étiqueter une personne. On vient parler d'un comportement qui va porter préjudice, qui va porter une atteinte à la liberté, mais ça peut arriver à tout le monde de le faire, à différents degrés, comme vous le soulignez. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont de ce côté-là? En fait, ce qu'on estime, et Ghislaine Labelle, dans un de ses bouquins, explique qu'il y a trois groupes d'employés. Hein? C'est comme une espèce... On s'entend là-dessus en général. Hein? Il y a un premier 20 % d'employés qui, eux, travaillent dans une organisation vraiment en concordance avec la valeur de l'organisation, hein, avec les normes, sont de bons employés qui respectent l'environnement de travail. Il y a un autre 20 % par contre qui, eux, sont davantage associés à des personnalités difficiles au travail. Et le reste des gens, ce sont des gens qui vont se rallier selon le leadership en place. Alors, ce sont des gens qui sont, je dirais, tout disposés à suivre le vent selon le courant. Alors, imaginez-vous que si ce sont dans le groupe de ce 20 %-là, donc de bons employés, honnêtes, fiables et loyaux, qu'on retrouve les leaders, bien, à ce moment-là, on va se retrouver avec le 60 % des gens qui vont suivre ce leadership-là. En revanche, si on a nos 20 % de personnalités difficiles qui rendent la place, à ce moment-là, ça va devenir difficile et le climat va être un petit peu lourd dans notre milieu de travail. Quand ça se passe, c'est souvent qu'il y a un manque de leadership ou d'autorité, on pourrait dire. Hein? Parce que quand notre chef est absent, hein, quand on sent qu'il n'y a pas vraiment d'encadrement, de limites, de leadership, etc., bien, on se soucie davantage de nos propres besoins. Hein? On fait comme ça nous plaît. On y va comme on pense et on essaie de satisfaire nos aspirations à nous. Alors, ce n'est pas étonnant que ceux qui se retrouvent dans un environnement très peu encadré, bien, ils vont de plus belle en disant, bien, moi, mes stratégies d'influence préférées, ce sont les stratégies manipulatoires. Alors, qu'est-ce que la manipulation au juste? Alors, je vais vous la définir clairement. C'est un processus d'influence, comme on le dit. Hein? On cherche à influencer pour obtenir du pouvoir. Conscient ou inconscient, je vous dirais la majorité, ce qu'on dit, c'est que la majorité des personnes qui manipulent sont conscientes de ce qu'elles font. Par contre, elles ne sont pas toujours conscientes de l'impact que ça a chez les gens. Elles ne sont pas toujours conscientes de ce que ça crée comme effet chez leurs interlocuteurs, chez leurs collègues de travail. Alors, un processus d'influence conscient ou inconscient qui vise à retirer des gains et à satisfaire ses intérêts, hein, donc à obtenir un certain pouvoir, aux dépens des autres. Et je vous dirais, c'est là où ça se joue. Hein. C'est là où on parle de manipulation et pas seulement d'influence. C'est que ça se fait aux dépens des autres. Aux dépens de quoi, me direz-vous? Bien, aux dépens de l'intelligence des gens, aux dépens de leur libre arbitre. Et puis, lorsque ça devient du harcèlement psychologique, bien, ça se fait aux dépens de l'intégrité physique et psychologique des gens. Bon, là, de deux choses l'une. Hein. Il y a des fois où on est conscient. Hein. Là, on entend un commentaire qui nous dit, par exemple, « Ah, envoye donc! Oh, tu sais bien que je ne peux pas rien te refuser quand tu me fais cette petite face-là! Hein? » Alors, on est conscient que la personne essaie, en quelque sorte, hein, de gagner des points, de s'attirer des faveurs. Hein? Alors, mais on est conscient. Et on accepte de jouer le jeu. Donc, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, là où ça se corse, par contre, c'est quand on n'est pas conscient. Et là, on se retrouve, on sort d'une réunion d'équipe ou on sort du bureau d'un collègue de travail, on se sent tout croche, on se sent mal, on a l'impression d'avoir été piégé, coincé, on s'est fait avoir. Là, on se dit, bien voyons, j'ai rien vu aller de tout ça et je me suis fait manipuler, moi, là. Alors, c'est quand on n'est pas conscient et qu'on commence à sentir qu'on perd du pouvoir, qu'on a perdu une marge de manœuvre, qu'on a perdu notre capacité d'agir, que ça nous a piégés, que ça nous a coincés, c'est là. Quand ça nous a déstabilisés, c'est là que ça pose problème. Alors, par rapport à ça, je vous dirais, moi, je vais distinguer deux formes de manipulation. Ce que j'appelle les stratégies de manipulation et les comportements de manipulation. Quand on est dans le domaine du travail et qu'on parle de stratégies de manipulation, les stratégies, ce sont des manœuvres qui se produisent un petit peu à notre insu. Hein? C'est comme des magouilles, si vous voulez. Toutes sortes de choses, des opérations qui se trament un petit peu. On organise les flûtes, il y a des pots de vin qui se font, il y a des alliances qui se créent. Hein? On essaie, à notre insu, de piper les dés pour arriver à certains résultats. Quand on parle de comportement de manipulation, ça se produit en interaction directe. Alors, moi, je suis en train de parler à mon boss, et puis là, il vient de me lancer une craque, il vient de me dire quelque chose. Là, j'ai l'impression que, il est en train de m'avoir, il est en train de m'en faire passer une petite vite, il est en train d'essayer de me rouler. Hein? Alors, quand on parle de comportement, c'est quand on est en face de la personne, puis là, on fige. Hein? Autre distinction, bien, ça s'exerce surtout par les opérations organisationnelles. Par exemple, oublier volontairement d'inviter quelqu'un à une réunion d'équipe. Demander à un employé un travail qui dépasse ses compétences pour lui faire vivre de l'échec. Effacer des messages sur des boîtes vocales ou effacer des courriels. Non, je n'ai jamais rien vu ça. Ah, bien, c'est drôle. T'es-tu sûr que... Ah, puis là, il y a le doute qui s'installe et tout ça. Attendre au dernier moment avant de demander une tâche à quelqu'un. Hein, 5 minutes avant qu'il parte. Ah, j'ai un dossier urgent à faire. Hein? Alors là, on est dans une opération stratégique. On se dit, je vais attendre à la dernière minute, comme ça, elle va se sentir coincée. Puis là, elle va me dire oui, fait que ça va lui faire plus de travail à faire. Puis comme ça, je vais pouvoir tout. Alors, quand on parle de comportement de manipulation, c'est vraiment au niveau relationnel que ça se passe. Alors, le boss qui dit à son employé, 5 minutes avant de partir, « Écoute, Ginette, faut que tu me fasses ça, c'est urgent. » Bien là, t'es-tu sûr que c'est urgent? Alors, oups, Ginette, elle se sent coincée. Alors, en plus de la stratégie de manipulation, il y a eu un comportement manipulateur parce qu'il vient de lui dire quelque chose qui fait que, oups, bien, écoute, Ginette, là, regarde, tu me dis si t'es pas capable de faire ce job-là. Là. Non, OK, je vais vous le faire, monsieur. Parfait. Alors, Ginette, elle vient de se faire avoir, elle vient de se faire manipuler. Alors, la première chose à faire, et j'en suis rendu à ma deuxième portion de cette conférence-là, la première chose à faire pour être capable de se libérer de l'emprise des comportements de manipulation, c'est d'être vigilant et d'être capable de déceler les signes, les indices qui nous permettent de dire « Oh, attention, manipulation! » C'est d'être capable de les identifier. Hein? Parce que pour être capable de les reconnaître chez les autres, il faut d'abord les connaître. Il faut d'abord savoir ce que ce sont ces comportements manipulateurs. Et je vais parler de comportements manipulateurs vraiment dans cette portion-là, parce qu'ici, on a peu de pouvoir, on peut réagir après coup, c'est vraiment des manœuvres organisationnelles et on peut s'en tirer par des manœuvres, je dirais, formelles. Ici, c'est là où les gens se sentent davantage pris, ils ne savent pas quoi répondre, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas comment déjouer les pièges du manipulateur qui leur parle. Alors, on va davantage s'attarder à cet aspect-là. Alors, le premier comportement manipulateur, je le nomme l'ambiguïté. En fait, quand quelqu'un émet des messages flous, hein, il y a des gens qui ont le tour de garder ça vague, hein, de dire des choses qui ne veulent rien dire. Hein. C'est spécial. Hein? C'est spécial. Je ne suis pas sûr, c'est-tu une craque ou non, c'est un compliment. C'est embêtant. Hein? C'est un mot qui veut dire plein d'affaires, mais ne rien dire en même temps. Hein? Alors, c'est flou. On ne sait pas trop comment interpréter ça. Des demandes pas claires, par exemple. Excuse-moi, as-tu quelque chose de prévu samedi? Là, on se sent un peu piégé parce que là, on se dit, bien là, si je dis oui, il va dire OK, bien là, si je dis non, il va peut-être me demander de faire de quoi. C'est quoi la demande, hein? Au fond, qu'est-ce qu'il veut? On dirait qu'il commence par nous coincer avant de nous demander vraiment ce qu'il veut. Hein? Ou des réponses qui ne sont pas claires, comme par exemple, je ne suis pas contre. Bien, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas pour non plus. C'est quoi d'abord? C'est comme, on ne se positionne pas trop, hein? On reste flou, on reste vague. Hein? Les gens qui utilisent ce comportement-là vont avoir un ton qui est difficile à saisir. Hein? Tu sais, des fois, on parle à des gens, puis on se dit, coudonc, ils voulaient-tu rire de moi, ou c'était une vraie question, ou c'est un message qu'ils essaient de me passer? Ça devient, à un moment donné, très, très difficile de faire du ménage là-dedans. Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que c'est de l'ironie? Est-ce que c'est du cynisme? Ou c'était vrai ce qu'il m'a dit? À un moment donné, on vient qu'on ne sait plus. Propager des rumeurs et laisser planer des sous-entendus. Il y en a qui sont très, très bons là-dedans et qui prennent un malin plaisir. Bon, vous allez me dire, des petites commères, il y en a partout. Moi-même, j'aime ça être aux nouvelles, savoir un petit peu ce qui se passe dans le bureau. J'aime ça propager des ragots, c'est le fun, ça met de la vie dans un 5 à 7, etc. Bon, ça, c'est une chose. Par contre, il y a des gens qui utilisent volontairement ce canal de communication-là pour détruire et s'attaquer à la réputation de leurs collègues de travail. Ils font du salissage, vraiment. Alors, à ce moment-là, bien, on parle vraiment d'un comportement de manipulation. Par exemple, le genre de commentaire qu'on peut entendre, « Hey, t'as entendu parler du nouveau? Hein, le nouveau qui est rentré dans le département? » En tout cas, il paraît qu'il n'a pas été embauché pour les bonnes raisons. Donc, ça veut dire qu'il y a des bonnes raisons. Quelles sont-elles? On ne le sait pas. Les mauvaises raisons, c'est quoi d'abord? On ne le sait pas non plus. Puis lui, il est embauché, pas pour les bonnes raisons. Pour quelles raisons il est embauché? On ne le sait pas non plus. Voyez-vous comment est-ce que déjà, ça laisse planer hein, quelque chose qui est ambigu. C'est un message flou. Hein? Alors, ça crée des fois... Ah! Alors, tout le monde commence à se méfier du petit nouveau, puis ils ne savent même pas pourquoi. Parce qu'il n'y a aucun fait qui a été mentionné. Maintenir les sources d'informations non repérables. Ah, en tout cas, il paraîtrait que... Ah, quoi ça? Il paraîtrait qui, ça? Ah, ça se jase dans le bout. Qui ça, ça? Qui ça qui jase? Ça vient de où, ça? Qui a dit ça? On ne sait pas. Ça jase. On entend bien des affaires. Hein? On. Qui ça? Toi, t'as entendu bien des affaires? Ah, ben là, j'aime mieux pas me mouiller parce que là, tu sais, hein? Tu sais quoi? Tu sais, les gens qui finissent jamais leurs phrases, hein? Il y en a qui sont bons là-dedans. En tout cas, moi, j'ai déjà eu un collègue de travail qui, dans la réunion d'équipe, c'était systématique. À chaque fois qu'il nous parlait, il finissait ses phrases dans un contexte où... Ouais, mais où quoi? Ah, mais là, tu sais... je veux pas trop faire ma langue sale, mais Jean-Louis, là... Quoi? Ben... Ben, en tout cas, moi, j'ai entendu dire que... Ben, t'as dire que quoi? Alors, ça contribue à garder l'ambiguïté en place et ça fait, à un moment donné, ça crée une lourdeur dans le milieu de travail. Le mensonge. Bon, là, un petit peu comme on se disait tantôt, tout le monde manipule, alors tout le monde ment. Levez la main ceux qui n'ont jamais menti. Parfait. Alors, vous êtes toute une gang de menteurs, de menteuses. Maintenant qu'on établit ça, alors, on ment. Hein? Ça, c'est, on ment, là, on va commencer par se dire les vraies affaires. Tout le monde ment. Et c'est essentiel dans la société aujourd'hui. On ment pour toutes sortes de raisons. On ment pour respecter les règles de politesse. Hein? On ne peut pas toujours se permettre de dire vraiment que la robe de notre collègue, le collègue de travail lui fait ressembler à une baleine verte. Là, tu sais, c'est pas très poli. Alors, pour rester en harmonie, pour vivre en société de façon harmonieuse, on a besoin des fois de mentir, de ne pas tout dire ce qu'on pense. On ment aussi pour donner de l'espoir. Hein? Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Nous autres, on est convaincus qu'elle va se planter, là, mais regarde, ça ne donne rien d'y dire à ce moment-ci. Elle a travaillé tellement fort, alors, par politesse et pour l'encourager, on va lui mentir. On ment pour impressionner aussi. Hein? Des fois, on a notre petit égo qui prend de la place. Hein? Puis regarde, on va en beurrer un petit peu plus épais que le client demande. On essaie aussi des fois de mentir pour minimiser certaines conséquences négatives. Hein? C'est bien connu que parfois, les médecins, précédant l'opération d'un patient, même s'ils savent que l'opération a 25 % des chances de réussir, ils vont un petit peu amplifier ce pourcentage-là. Parce que ça a été prouvé que lorsque le patient est optimiste et confiant dans l'opération, les chances de réussite et de succès sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus nombreuses. Alors, voyez-vous, il y a des fois où c'est très légitime de mentir. Par contre, quand on parle de comportement manipulateur, on est dans un autre thème. Promettre sans livrer. Hein? On entend parler des promesses de politiciens, hein, évidemment. Alors, le mensonge est délibéré. C'est vraiment pour obtenir un poste, pour obtenir des faveurs quelconques. Hein? On parle aussi des gens qui essaient de révéler à demi-mot les vérités en omettant certains détails. On appelle ça les mensonges blancs. Vous connaissez la différence entre les mensonges noirs et les mensonges blancs? Mensonge noir, là, c'est le vrai mensonge. Ça, c'est l'invention pure. C'est l'affaire qui n'a pas d'allure, là, qui ne se tient pas debout, ni de A, ni de A à Z. Là, c'est complètement faux. Le mensonge blanc, par contre, est un petit peu plus vertueux. C'est qu'on vient mêler des éléments de vérité avec des mensonges. Hein. Fait que là, ça vient un petit peu mêler les cartes. Alors, on omet aussi certains détails. Hein. On va dire, par exemple, « Ah, écoutez, patron, je m'excuse parce que je ne suis pas rentré, mais là, écoutez, il y a eu un dossier urgent à régler. » Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans le fond, oui, il y avait un dossier urgent à régler, mais en plus, c'est que moi, je me suis couché à 3 heures du matin, puis je me suis réveillé, j'étais complètement gommé. Puis bon, tu sais, il y a des choses comme ça qu'on tait. Alors, on va dire seulement une partie de la vérité. Un autre comportement de mensonge, de falsifier des données. Hein, vraiment, on va mettre du liquid paper, on va changer les virgules de place, hein, on va trafiquer certaines données, on va vraiment faire en sorte que les documents, les informations soient délibérément faussées. Et on va aussi prêcher le faux pour savoir le vrai. Hein? Ah, il paraît que tu as pété ton budget de 15 000 $. Et là, la personne est obligée de se justifier, de dire, ben non, il a juste été dépassé de 2 000 $. Ah oui, OK, la personne n'était pas du tout au courant, mais on invente quelque chose qui est faux en disant ça va faire sortir le vrai. Alors, la personne qui se fait accuser de fausseté, elle se voit dans l'obligation de rétablir la vérité et de livrer une information qui, au départ, était confidentielle. Mais elle n'a pas le choix parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont été propagées et on a dit plein de faussetés, justement, pour que la véritable information sorte au grand jour. Alors, il y a le poète Paul Valéry qui disait « Il y a plus faux que le faux. C'est le mélange du vrai et du faux. » Et c'est ce qui est difficile à cerner. Les excellents menteurs le savent et vont utiliser délibérément cette stratégie-là pour être capables de tromper les gens qui les entourent. Un autre comportement de manipulation, c'est ce qu'on appelle l'attribution. Quand on attribue quelque chose à quelqu'un, hein, quand on appose une étiquette sur l'autre, « Ah, t'es comme ça, toi! Mm-hmm. » On vient de se faire cerner, on vient de se faire embouteiller, on vient de se faire canner. En tout cas, c'est parce qu'avec le monde insécure comme toi, c'est sûr que là, moi, je ne peux pas... Ah, OK, on vient nous apposer une étiquette de personne insécure. On vient nous dire qui on est, finalement. Hein? On se prononce sur la personnalité des gens. Et on va rapporter des propos. Bien, tu me dis que c'était le 23 avril, j'ai entendu. Bien non, je ne t'ai jamais dit ça. Ah oui, je sais, je t'ai entendu, tu étais là, puis... Alors, on invente des choses, on rapporte, non, c'est ce que tu as dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça, puis c'est ça. Hein? C'est comme si l'autre sait mieux que moi-même tout ce que j'ai dit, finalement. On attribue à l'autre aussi de mauvaises intentions. « Hey, pourquoi tu tiens tant à me faire fâcher? T'aimes-tu ça? » on est en train de dire, ton intention, c'était de me faire fâcher. T'es donc bien garce. Hein? Alors, la personne, elle se sent mal un petit peu. Hein? On vient juger ses intentions. Hein? Je sais que tu as agi de la sorte là, juste pour te sortir d'un faux pas. Là. Mais garde, fais-toi-en pas, on va abrier ça. Hein? Non, 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 pas du tout. Non, garde, que t'as pas, c'est correct avec moi. Non, non, mais pas du tout. C'était vraiment pas mon état. Correct, correct. Dans l'esprit en paix, ça ne sortira pas d'ici. Là, on sort et on est tout croche. Hein? Tu es une personne intelligente, toi? Alors, je sais que tu vas prendre la bonne décision. Oups, on sent un petit peu de pression tout d'un coup. Hein? La bonne décision, parce qu'il n'y en a qu'une, évidemment. Le discours paradoxal. Ah, celle-là. Hein? Le discours paradoxal, quand on parle de paradoxe, hein, c'est qu'on parle d'opposer souvent. Hein? C'est finalement exprimer quelque chose, puis en même temps, exprimer le contraire. Hein? C'est pas à moi de te le dire, là, mais sous-entendu, je m'en vais te le dire, par exemple. Hein? Prends le pas personnel, là, mais ce que je vais te dire, tu vas avoir intérêt à le prendre personnel. Hein? Ah, si je pouvais vous aider, je le ferais. Pensez à ça. Hein? Dans ce message-là, il y a deux choses. Premièrement, on dit « je ne vais pas vous aider ». Puis deuxième chose, on se dit, bien, je vous offre mon appui, mon soutien, hein, mon réconfort, mais je ne fais rien pour vous aider. Hein. C'est un petit peu un message paradoxal. Je me souviens, à un moment donné, je parlais à un collègue de travail, et puis il me faisait part d'une idée qu'il avait, une idée que je trouvais vraiment mauvaise. Alors, je l'écoutais, puis j'étais trop mal à l'aise à ce moment-là pour lui dire vraiment, écoute, ça ne tient pas la route de ton affaire, j'aime pas ça ce que tu proposes. Alors, ce n'était pas le moment. J'étais occupé à travailler sur autre chose. Alors, il me parlait de son idée. Puis là, ce que je faisais, bien, c'était comme, « Ah oui, bonne idée. Effectivement, très, très bonne idée. Et là, si on avait pris une photo de mon visage, là, ça aurait donné quelque chose comme ça. Ça a-tu l'air de quelqu'un qui est très enchanté de l'idée? Habituellement, quand on trouve qu'une idée est très bonne, on va dire, « Ah oui, c'est donc une bonne idée. Tu sais, hein, le visage est ouvert, hein, tout est éclairé, hein, tout est... » Là, c'était comme Alors, tout ça pour dire que des fois, on se fait trahir par notre langage non-verbal. Hein? Si, par exemple, il y a des gens qui sont manipulateurs dans ce sens-là, qui vont être capables de nous dire quelque chose de positif avec une attitude qui est négative. Hein? Bravo! Seigneur, tu dis, ben là, c'est parce que là, le message est positif, mais le non-verbal est très négatif. Ou encore le contraire, imaginez, le non-verbal est très positif, mais le message est négatif. Hein? En tout cas, merci Mireille, hein, d'avoir mis tout le département dans marde. Alors, voyez-vous, ça devient un peu confondant. Et là, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on croit le message qui a été livré ou on croit l'attitude et le ton sur lequel ça a été lancé? Hein? Voyez-vous? Et c'est un peu, on devient, il y a de quoi devenir schizophrène des fois par rapport à des situations comme celle-là. Et entre autres, dans les cas de harcèlement psychologique, ça devient difficile à prouver. Parce qu'une personne qui dit bravo avec une expression comme celle que je viens de vous faire, c'est difficile d'arriver à dire, bien, le ton qui était employé, c'était, etc. Parce que cette personne-là peut toujours se défendre en disant, bien, ce que je t'ai dit, c'est bravo. Hein, voyez-vous? Alors, il y en a qui usent délibérément de ces tactiques-là. Utiliser la double contrainte pour offrir des choix perdants. C'est que peu importe ce qu'on offre, ça met la personne en situation d'échec. Hein? Bien là, il faut admettre que c'était maladroit de ta part, là, mais moi, je ne juge pas ça, par exemple. Bien là, c'est parce que ce n'est pas ce que tu viens de faire, porter un jugement de maladresse. Bien là, c'est quoi tu veux? Là? Tu vas avoir l'air fou? Bien non, tu veux perdre l'opportunité de ta vie. C'est parce qu'un comme l'autre, c'est su que c'est pas tentant. Hein? Avoir l'air fou, perdre une opportunité qui est très importante pour ma carrière. Alors, il y a des choix comme ça qui mettent toujours les personnes en situation d'échec. C'est ce qu'on appelle le discours paradoxal et la double contrainte. La tension de réciprocité. Quand on se sent redevable envers quelqu'un, hein? Tu sais, on offre des cadeaux. Ça fait trois fois qu'il nous invite à souper, Caroline, il faudrait bien l'inviter. Hein? Mais ça se passe aussi dans le milieu de travail. Hey, je t'ai sorti d'un faux pas, mon cher, dans ce dossier-là. Hein? Alors, il y a une tension qui se crée. On offre toutes sortes de cadeaux. Hein? Ce qui est particulier dans cette stratégie-là, c'est que l'objectif, c'est de faire sentir à l'autre qui doit nous être redevable, hein, pour tout ce qu'on lui a offert. C'est pour s'attirer des faveurs. C'est une intention qui est ferme, d'obtenir quelque chose en retour par la suite. Hein? C'est une méthode qui est utilisée par certains proxénètes pour monter des réseaux de prostitution. On approche des jeunes filles, on leur offre des cadeaux, on les gâte, on leur offre des bijoux. Et à un moment donné, on leur dit, « Bon, ben maintenant, ma chère, ça se paye, tout ça. » La facture s'en vient. Alors, donc, ça peut effectivement créer une forte tension. Les gens qui ont le tour de manier les flatteries, les compliments, hein, qui ont le tour d'être très séducteurs, qui ont beaucoup de charisme, fermez les yeux sur une faute, inquiète-toi pas, ça reste entre nous. Mais tu m'en dois une, par exemple. Hein? Alors, j'éponge ta faute, mais quand ça va être à mon tour de commettre une erreur, c'est ce qui est sous-entendu, que je te voie redire quelque chose, par exemple. Hein? Alors, ce qui se passe dans cette stratégie-là, c'est que on exige un retour. Puis vous allez, tu sais, l'effet de réciprocité, ça se passe dans la vie de tous les jours. C'est spontané. Évidemment que si on a un collègue de travail qui vient nous prêter main forte, qui nous aide, on va avoir le goût de l'aider après. Mais ce qui est particulier dans cette stratégie-là, et là aussi de la manipulation, c'est que c'est ici, là. C'est que la personne qui a ce comportement de manipulation-là, c'est elle qui va exiger quand et comment le retour va se faire. Hein? Là, mon cher Jean-Guy, c'est à ton tour de me retourner l'ascenseur. Voici ce que tu vas faire. Voyez-vous? Alors, on vient de dire, là, tu me dois ça. Tu me le dois de cette façon-là. Alors qu'habituellement, quand il y a de la réciprocité naturelle, bien, ça se fait hein, au gré des relations qu'on établit au travail. Le contrôle de l'information. On l'a vu hein, quand on parlait de manipulation dans le monde politique et médiatique. Alors, on effectue de la rétention d'informations, on cache, on s'arrange pour qu'on ne sache pas trop d'où ça vient. On invoque des délais administratifs. Hein. Vous savez, dans certaines décisions organisationnelles, on part des commissions d'enquête, on fait des griefs, on fait des appels de décision. Tout ça pour délibérément ralentir les processus, décourager les gens et faire en sorte qu'au bout du compte, ils abandonnent. On atténue son vocabulaire pour minimiser l'impact de certains mots. Hein. Non, c'est ça. Voyons, c'est ça. On n'appelle pas ça un mensonge, voyons donc. Hein. C'est tous les gros mots qui sortent. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'ai débuté ma carrière, je travaillais comme étudiant dans un magasin grande surface, et puis à un moment donné, une coordonnatrice vient me voir, elle me dit, bon, Dominique, elle m'explique comment ça fonctionnait dans ce magasin-là. Et elle me dit, bon, ben alors, quand tu rentres, on avait des cartes à punch, hein, vous connaissez, hein? Alors on punch en arrivant, on punch en sortant. Alors je dis, OK, bien là, pour ma carte à punch, non, ce ne sont pas des cartes à punch. On ne punch pas ici, on pointe. Hein? Alors, ce n'est pas une carte pour puncher, c'est une carte pour pointer, pour avoir de l'information. T'sais. Ah, OK, ça a l'air moins pire. Hein, elle nous explique, dans le fond, ça, entre vous et moi, ça a même mordite affaire. Là, hein. Mais on va utiliser certains mots pour faire à croire que, ben non, ce n'était pas une fraude, c'est un petit aménagement financier. On va amplifier, on va exagérer certains faits. On va aussi réduire l'étendue des options, des possibilités. Écoute, là, regarde, ce n'est pas compliqué. Là, dans ce cas-ci, tu as le choix, c'est ça ou c'est ça. « Oh, mais il y a peut-être une autre possibilité. » Non, regarde, on a tout pensé. Là, tu perds ton temps, ça ne donne rien d'essayer de trouver d'autres idées. Là, regarde, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu choisis? On coince tout de suite les gens. On dit, dans le fond, tu as deux choix. C'est celle-là ou celle-là. Il n'y en a pas de troisième, quatrième ou cinquième de possible. Hein? Alors, on vient encore là d'enfermer la personne dans des options. La mise en doute. Alors là, ça commence à être grave. On commence à faire douter les gens. Remettre en question les compétences. L'intégrité de la personne. Tu te rappelles pas? Ben voyons, on t'a dit ça, là. Ah ouais? Quand ça fait plusieurs fois qu'une personne se fait dire, tu te rappelles pas? Ben voyons, tu te rappelles pas, tu t'en rappelles pas. Là, à un moment donné, la personne, elle se met à se dire, là, coudon, c'est-tu, moi, j'ai peut-être vraiment des problèmes de mémoire. Et la personne se met à douter. Le doute commence à s'installer sur ses capacités mentales. On doute de la provenance et de la véracité de certaines informations. Hein? D'où ça vient, ça? Ah, voyons donc, ton idée, c'est pas toi qui as inventé ça. Ah non, OK, je pensais qu'on en avait discuté. Non, ça vient de Jean-Paul. Ah, OK, tu sais. Au nom de notre amitié, je vais te dire tout haut ce que les gens pensent tout bas de toi à ton propos. Hein? On vient encore là faire douter la personne sur ses compétences. Puis le bout, c'est quand on arrive, puis on explique des choses, puis qu'on finit par dire, ah, laisse donc faire. Sous-entendu, tu ne comprendras pas de toute façon. Alors ça, quand on parlait de porter atteinte à l'intelligence des gens, c'est de cette façon-là dont ça se passe. Donner des feedbacks négatifs dans le but de dévaloriser. T'as de la misère, hein? Ah, oh, pauvre toi, pour moi, t'es fatigué. Prends des vacances. Hein? Ça va pas fort ce temps-ci, Gisèle, admets-le donc, hein? Ah oui, tu penses? Ben écoute, regarde, là, à côté de Diane, comment est-ce qu'elle opère, elle? Ah ouais? Ah, ouais. Voilà. Alors, ah, dernier point par rapport à ça. On se fait le porte-parole en usant des termes peu éligibles, évidemment, quand on se met à caler délibérément certaines personnes, puis quand on se dit, regarde, moi, je vais te le dire, là, ce que les gens pensent de toi, ton sujet, on en a parlé. Ce que ça fait, hein, il y a un proverbe qui dit, la flamme d'une bougie s'éteint quand il n'y a plus d'air. Il y a des personnes qui utilisent exactement ce principe-là pour étouffer puis encadrer les gens de telle sorte qu'à un moment donné, ça sape toute leur énergie. Si vous voulez avoir des trucs pour enterrer une idée, oui. Ah, la fameuse victime. Alors, on me demande, est-ce qu'il y a des gens qui, au lieu d'écraser les autres, cherchent à se faire prendre en pitié? Tout à fait. C'est le rôle de la victime, effectivement, qu'on connaît bien. Oui, effectivement. Alors, au lieu de se poser en bourreau, ils vont se poser en victime, effectivement. C'est ça. Effectivement. Alors, ils font passer leurs interlocuteurs. Je répète pour la caméra, là, ils font passer leurs autres, les autres personnes pour des bourreaux, effectivement, pour des gros méchants loups. Bien, c'est un petit peu, quand je parlais de la mise en doute, hein, dire, écoute, tu fais exprès de me faire fâcher, pourquoi tu voulais de me faire du mal à ce point-là? Regarde, moi, j'ai rien fait là-dedans. Hey, tu as rapporté mes propos tout croche, pourquoi tu fais ça, des affaires de main? Et là, hein, on est en train de rejeter le blâme sur l'autre, effectivement. Puis on est là, bien, moi, je suis tout blanc, tout neige. « Hey, qu'est-ce que tu as été dire à un tel hier? » Bien, j'ai dit « Bravo, félicitations. » Moi, je cache, je change. Je ne suis qu'un ange sur terre qui cherche à faire le bien. Alors, bref, pour, si vous voulez, enterrer vraiment les idées d'une personne, alors je vais vous donner 7 moyens. Premièrement, tournez-la en dérision. Hein, en réunion d'équipe, vous entendez une idée qui a l'air fofolle un peu, là. Tu sais, commencer à rire vraiment ouvertement. Ça ne donnera pas le goût de recommencer. Prouvez que ce n'est pas une idée nouvelle. Hein? Voyons donc, c'est vieux comme la terre, cette affaire-là, franchement. OK. Ensuite, vous parlez de ce qu'elle va vous coûter. Ça, habituellement, ça étouffe dans l'œuf direct de départ. Semez le doute sur l'auteur. Voyons donc, c'est d'où ça vient, ça, cette affaire-là. Ce n'est pas un tel qui avait déjà dit ça. Ça a déjà été essayé. Assassinez-la des loges. Ah, ça, c'est là, tu sais. Hey, c'est bon, ça! Hey! Et voilà. Ensuite, traitez-la avec dédain et finissez tout simplement par l'ignorer. Alors ça, en employant ces 7 stratégies-là, vous pouvez être sûr que vous allez complètement étouffer la créativité dans vos brainstorming au bureau. Hein? Alors ça, ce sont des stratégies qui malheureusement sont souvent déployées. Alors je vous les nomme tout simplement pour que vous soyez en mesure de les déceler quand vous allez les entendre et les voir. Finalement, un autre comportement de manipulation, c'est la culpabilisation. On essaie de soulever des contradictions entre les intentions et les comportements. Écoute, tu avais dit que tu m'aiderais. C'est comme ça que tu t'y prends? Alors, la personne, elle se sent mal, elle commence à se sentir coupable, parce qu'elle dit, bien là, c'est vrai, mon intention, c'était d'aider, qu'est-ce que je viens de faire là? Hein? Faire part des attentes non satisfaites. Alors, évidemment, bien, genre de commentaire que, personnellement, je trouve tellement... Enfin, écoute... Je voulais simplement dire une chose. Tu me déçois. Oui, mais là, écoute, on va essayer. Regarde, on va... Mettre de l'avant les impacts négatifs du comportement sur soi. Te rends-tu compte qu'est-ce que tu viens de me faire? Te rends-tu compte là, ce que tu as fait, là? Puis sais-tu, là, moi, ce que ça va faire là, chez nous, dans ma cour, là? Hein? T'es pelleté tous tes problèmes dans la mienne. Là. Regarde, là. Tu te rends-tu compte dans quelle situation tu me mets? Oui?
Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on
devrait
faire avec les...
On va le voir tantôt. Je vais présenter certaines stratégies de neutralisation qui visent effectivement à essayer là, de contourner ça. Mais je vous dirais, d'emblée, on ne recommande pas de manipuler par la manipulation. Tu sais, c'est-à-dire qu'on va... On n'essaie pas de combattre le feu par le feu, sinon ce que ça crée, c'est une escalade. Ah, le dévoiler, ça, c'est une stratégie qu'on va voir tantôt. Alors, user de blâme et de reproche, bien ça, évidemment, ça fait partie de ce qu'on observe également. Alors, peut-être qu'à la suite de ces stratégies-là, on peut en venir à se demander comment ça se fait que des gens peuvent utiliser ces comportements-là. Alors, premièrement, on utilise la dépersonnalisation pour nous permettre de se déculpabiliser. Quand on manipule, hein, c'est beaucoup plus facile de manipuler des ressources, des effectifs, des éléments. T'sais, au lieu de dire « c'est des personnes que j'ai autour de moi » ou des collègues de travail, on va dire « c'est des ressources, des effectifs, des salaires, hein, des pions ». C'est facile de manipuler des pions. Quand on parle des personnes, c'est une autre chose, par exemple. Hein. Alors, il y a comme une dépersonnalisation qui se fait, ce qui rend beaucoup plus aisé de manipuler par la suite. Le clivage. Hein? Le clivage, c'est d'être capable de mettre deux opposés, de dire il y a ça et il y a ça. C'est blanc et c'est noir. Il y a les bons, il y a les méchants. Alors, les personnes qui manipulent fréquemment sont bons pour faire un clivage. C'est-à-dire, eux autres sont corrects, eux autres ne sont pas corrects. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Hein? Alors, voyez-vous, quand on... Oui, je n'élaborerai pas là-dessus. En fait, quand on fait ça, imaginez que si on vous perçoit comme le méchant, tu sais, on a le droit de vous attaquer. Hein? Si vous percevez les autres autour de vous comme les méchants, comme les ennemis à abattre, bien, vous allez être tout à fait en situation de légitime défense. Alors, pas compliqué. Si un cambrioleur rentre chez vous, vous avez le droit de vous défendre. Hein, vous avez le droit d'appeler, vous avez le droit de tirer, vous avez le droit de bousculer, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous êtes en situation de légitime défense. Alors, souvent, les personnes qui manipulent vont faire un clivage comme ça. Alors, tous ceux qui sont dans le camp ennemi, ça leur donne en quelque sorte l'autorisation morale pour appliquer toutes sortes de techniques. Troisièmement, la présomption de supériorité. Quand on se sent supérieur, bien, c'est évident que ça nous amène à avoir du mépris par rapport aux autres. Hein? On en arrive à se dire, mes besoins sont plus importants. Écoute, voyons, là, elle, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ça, sur la terre, à part gagner de l'argent puis mourir dans 10 ans? Hein? Ouais. Alors, voilà. Et finalement, la rationalisation. On rationalise, on n'est pas au niveau des émotions. C'est pour ça que je disais tantôt que les personnes qui manipulent n'ont souvent très peu conscience des impacts et des effets que ça crée chez les autres. Hein? Parce que les impacts sont souvent d'ordre émotif. Alors que quand on rationalise, quand on garde ça dans la tête, c'est beaucoup plus facile. Hein? On justifie ses actions à l'aide de principes. Ah, bien écoutez, on ne peut pas faire de blettes sans casser deux. Hein? Bon, mais c'est parce que c'est quoi, les œufs, c'est tes collègues de travail? Voilà. Est-ce que vous êtes à risque de subir les contre-coups d'une manipulation? Bien, il y a certaines situations à risque, il y a certaines attitudes à risque. Les situations à risque, c'est quand on travaille dans un milieu où c'est flou. Il n'y a pas de règles claires. Et autant au niveau organisationnel que relationnel. Organisationnel, c'est-à-dire qui fait quoi, quels sont les rôles, les responsabilités. Quand on travaille dans un environnement qui est assez structuré, bien, ça ne permet pas aux autres de venir fouiner trop le nez dans nos affaires. Hein? Ça permet une certaine étanchéité, une certaine protection en regard des rôles et des responsabilités. Même chose au niveau relationnel. Hein? Quand on se dit, bien, écoute, on s'entend, nous, en équipe, pour dire que dans ce département-là, nous, on ne s'adresse pas aux gens de cette façon-là, on se respecte, on dit pas ça, ce genre de choses-là. Quand on a une plainte à formuler, on va d'abord voir la personne qui est concernée. T'sais, il y a certaines règles de jeu ou règles de conduite qui sont établies dans les organisations. Si c'est flou, s'il n'y a pas ça, bien, ça permet aux gens d'influencer comme ils le désirent. Les attitudes qui sont à risque, c'est quand personnellement, on a le désir de prouver sa propre valeur. Quand on veut que les gens nous aiment, quand on veut avoir l'approbation des autres, quand c'est important pour nous que les gens entérident et valident nos décisions, hein, lorsque l'opinion des autres a beaucoup d'importance pour nous, on est plus à risque. Pourquoi? Parce qu'on va être capable d'accepter beaucoup plus. Hein? On va être en mesure des fois d'accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter, tout simplement par souci de plaire, par souci d'être accepté, par souci d'être valorisé. Alors, c'est une attitude qui nous met à risque. Alors, il y a des éléments à considérer quand on parle de déjouer les comportements de manipulation. Le premier, c'est, dites-vous une chose, on ne peut pas vaincre la manipulation. Alors, si vous partez en guerre contre un manipulateur chevronné, vous allez perdre. à moins que vous en soyez un vous-même. Mais laisse-moi vous dire que vous allez y laisser des plumes. Hein. Ça cause beaucoup de dégâts. Alors, l'idée, c'est pas de dire, « Ah, lui, le gars, m'a allé dire ma façon de penser, puis je vais lui dire que c'est un manipulateur, puis je vais le... » Ça va juste l'échauder davantage, puis vous allez avoir le revers de sa réplique en pleine face. Alors, on ne peut pas vaincre la manipulation. Par contre, il y a des stratégies pour neutraliser. Isabelle Lazaraga, qui est une des auteurs connues, qui a écrit entre autres le livre « Les manipulateurs sont parmi nous », que vous retrouvez en librairie facilement, elle parle de contre-manipuler les gens. Alors, c'est un petit peu dans ce même esprit-là. Moi, j'emploie le terme « neutralisation ». Donc, pour neutraliser ou, si vous voulez, court-circuiter. Mais on ne peut pas vaincre, on ne peut pas battre les gens qui manipulent. Deuxième élément à considérer, on peut en ressentir les effets. Ce que ça veut dire, c'est si vous sortez d'une rencontre, vous avez l'impression que vous êtes fait flouer, que vous êtes fait manipuler, mais comment est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Vous allez en ressentir les effets. Puis là, on n'est pas au niveau cérébral, là. On est au niveau émotif et sensation physique. Hein? Quand vous sortez avec le sentiment d'être forcé de faire des choses que vous ne voudriez pas faire, probablement qu'il y a un signe de manipulation derrière ça. Portez attention à ça. Et portez attention aussi à vos symptômes physiques. Si à un moment donné, ça perdure dans le temps, puis vous commencez à souffrir d'insomnie, vous avez un stress qui est excessif, vous avez des troubles de sommeil, hypertension, un sentiment de mal-être, hein, bien, posez-vous des questions. Comment ça se fait qu'à chaque fois que je sors du bureau de Daniel, je me sens tout le temps tout croche puis tout à l'envers? Ah, bien, 1 + 1, tirez vos conclusions. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les déjouer? Quelles sont les stratégies de neutralisation qu'on peut employer et qui vont pouvoir nous aider à nous sortir de ces impasses-là? Alors, des stratégies de neutralisation. La première, c'est pour conserver une certaine marge de recul, dites-vous bien une chose, vous n'êtes jamais obligé de répondre du tac au tac. Et ça, il y en a qui ont le tour de mettre de la pression, en disant, là, regarde, il faut se décider là, rapidement, là, qu'est-ce que tu fais, là, envoie, là, décide, là, puis garde, ça me prend ça pour tout de suite. Puis, non, tu peux, là. Hein? Est-ce que le building va exploser si je prends 5 minutes pour y réfléchir? Hein? Je peux-tu te revenir? Regarde, laisse-moi le temps de réfléchir à ça. Je te reviens dans 30 minutes. Donnez-vous la latitude, le recul nécessaire pour ne plus t'embrouiller. Parce que si vous êtes en présence d'une personne qui a le tour de vous mêler dans vos pensées, de jouer dans votre cerveau, de faire en sorte que vous n'êtes plus capable d'avoir accès à vos ressources, que vous n'êtes plus capable de réfléchir convenablement, bien, donnez-vous la permission de sortir de cette situation-là, de retrouver vos esprits, votre sang-froid, et ça va vous être capable, en fait, de raisonner, hein, d'avoir la tête froide sur les décisions à prendre. Alors, ne vous sentez jamais forcé de réagir sur le champ. Les situations ne sont jamais aussi urgentes qu'on veut nous le laisser croire. Deuxième stratégie de neutralisation, pour contrôler votre attitude et ne plus exposer votre vulnérabilité, essayez de feindre l'indifférence. Parce que le jeu de la manipulation, c'est de créer un effet chez l'interlocuteur. Les personnes le savent qui réussissent à vous déstabiliser, qui réussissent à vous coincer, à vous mettre mal. Ils le sentent, ça. Alors, si vous êtes capable de feindre l'indifférence, puis banaliser, en faire en sorte un petit peu que dans le fond, le commentaire qui vient de vous livrer, ça vous glisse un petit peu comme sur le dos d'un canard. Hein? Par exemple, « Ouais, c'est pas fort, ça, cette idée-là. Ouais, ah, ça se peut. » Bref, deuxième sujet lors du jour, c'était quoi? T'sais, dans le fond, vous avez entendu, mais dans le fond, ça vous faites comme si ça ne vous intéressait pas, ou c'était vraiment banal ce qui vient de vous être dit. « Hey, j'ai entendu dire qu'un tel... Ah oui? Ah bon? Hey, changer de sujet carrément. » Alors, ça ne veut pas dire feindre que vous allez réussir à vous sentir indifférent. Ça se peut, hein, des fois, vous vous sentez comme un petit canard. Quand on regarde un canard sur l'eau, hein, qui vogue paisiblement, mais quand on regarde en dessous de l'eau, là... Ça pédale. Alors, ça se peut que les premières fois que vous êtes aux prises avec une personne qui vous manipule, qu'en dedans, vous vous sentez tout croche, puis vous ne saviez pas, ça vous fait de la peine, ça vous fait quelque chose, vous vivez de la culpabilité, parce que ça marche, hein, cette technique. Mais si vous réussissez à feindre, hein, faire semblant que, vous allez voir, tranquillement, il n'y aura plus de prise sur vous. Une autre stratégie. Pour vous départir des sentiments de responsabilité et de culpabilité, Redonnez à votre interlocuteur la responsabilité de ses propos. Il y a des gens qui ont le tour de faire des phrases comme si c'était des vérités absolues. Si tu as le département-là, ça ne marchera jamais. Ça n'a jamais marché, puis ça va toujours mal marcher. Ah, c'est ce que tu penses. Tu as le droit de penser ça. Hein? Ce n'est pas la vérité, c'est ta vérité à toi. Tu as le droit de penser ça. C'est ton opinion. C'est ton point de vue. Il y en a d'autres. Hein? Tu as le droit de penser ça. Voyez-vous comment est-ce qu'on se dégage et on se libère du commentaire? Non, mais si c'est ça que tu penses, c'est une façon de voir les choses. Ça sous-entend, bien, il y en a d'autres. Il y a la mienne. Ah, bien, peut-être que dans ton expérience, tu as vécu ça comme ça. Moi, dans mon expérience, c'est très différent. Ou moi, j'ai d'autres sources d'informations qui me permettent de dire que. Alors, ça se peut, mais il y a autre chose. Voyez-vous? Je peux dire oui si c'est ça que tu veux entendre. Voyez-vous comment est-ce que ces commentaires-là font en sorte qu'on se dégage et la personne qui manipule n'a plus de prise. Hein? On ne pogne plus finalement. Ça ne marche plus. Elle ne crée plus l'effet désiré. Oui, monsieur.
Dans ce livre, Isabelle Anaga, il faut faire attention pour pas atteindre leur susceptibilité non plus dans les réponses.
Tout à fait. Alors, monsieur dit qu'il faut faire attention pour ne pas atteindre la susceptibilité des interlocuteurs. Effectivement. L'idée, ce n'est pas d'être baveux. Et c'est pour ça qu'il faut être sincère dans ce qu'on dit. Hein? C'est sûr que si on se met à répondre avec le même ton baveux et le même ton condescendant que qu'on nous parle, ça fera pas l'effet souhaité, ça fera pas l'effet désiré. Ça va créer une escalade. La personne va se sentir piquée au vif et ça va faire en sorte que là, ça va grimper puis vous allez perdre au change. Alors, effectivement, il faut choisir. Et ce ne sont pas des trucs qu'on applique à la lettre. Là. Hein, dites-vous pas, « Ah, Dominique Paulus nous a entretenus en conférence, et puis là, quand on nous dit ça, il faut répondre ça, puis quand il nous dit ça, il faut répondre ça. » Ce n'est pas des trucs puis des techniques, ce n'est pas de la magie. Et à chaque situation de manipulation, il y a des stratégies différentes qui s'appliquent selon les personnes également. Et vous savez, c'est rare qu'une personne qui manipule aisément utilise seulement une stratégie de manipulation. Hein? Les personnes vont en utiliser plusieurs. Donc, ça devient des cas complexes. Et je dis toujours, on ne résout pas des problèmes complexes par des solutions simples. On résout des problèmes complexes par des solutions complexes. Et des fois, ça demande de la pratique, des fois des essais-erreurs. Et ça peut très bien que la première fois que vous arrivez face à quelqu'un, vous vous sentez mal, vous êtes, là, vous sortez, puis vous dites, hey, je me suis fait avoir, je me suis fait manipuler. Là, vous avez mis le doigt. Bien, à ce moment-là, à tête reposée, d'analyser puis de dire, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il me dit pour que je me sente comme ça? Et là, essayer de repérer les stratégies, hein, les comportements de manipulation que cette personne-là emploie. Ensuite, vous allez être à même de dire, OK, quelle stratégie je vais employer? Oh, effectivement, ça, si je réponds ça sur ce ton-là, je sais qu'il va m'exploser en pleine face. Ça, il ne faut pas y dire ça. Il ne faut jamais les prendre de front, les gens, comme ça. Hein? Il faut être beaucoup plus, je dirais, subtil. Oui? Oui. Oui. Oui, effectivement. Bien, c'est peut-être parce que la personne qui fait tout simplement ce qu'elle fait dans la vie, c'est se promener dans un corridor et propager des rumeurs, bien, c'est peut-être simple aussi comme stratégie. C'est-à-dire que si c'est sa seule et unique stratégie, bien, ça se peut effectivement que si c'est seulement ça qu'elle fait, bien, à ce moment-là, ça se peut que ce soit simple, évidemment, pour intervenir. Oui. Oui. Bien, c'est-à-dire que vous pouvez réussir à vous en protéger, à vous en sauver, mais cette personne-là va pouvoir continuer à propager des rumeurs quand même. C'est rare d'arrêter la machine à rumeurs, effectivement. C'est dans ce sens-là. Mais si, par contre, la personne qui propage des rumeurs utilise également d'autres stratégies, hein, bien, à ce moment-là, je veux dire, il y en a qui ont le tour de changer de pied puis dire, « Ah, parfait, on me bloque de ce côté-là, je vais aller de l'autre côté, je vais réussir pareil. Hein. » Effectivement. Oui, tout à fait. Alors, oui. Une autre stratégie de neutralisation pour contrecarrer l'ambiguïté et les sous-entendus, justement, quand on parle rumeur, tiens. Questionner et insister pour avoir une information précise. On parlait tantôt des gens qui finissent jamais leurs phrases, tu sais, qui disent des affaires, puis qu'on sait jamais. C'est quoi qu'ils veulent dire, finalement? Puis c'est quoi cette rumeur-là? D'où ça sort? Bien, insister pour obtenir des informations précises. Qui a dit ça? Quand? Hein, vous savez, les sept mots-clés, qui, quand, quoi, où, pourquoi, combien, utilisez-les. Hein? Pourquoi? Dans quel contexte ça a été dit? Ben là, écoute, je ne voudrais pas me prononcer là-dessus. Pourquoi tu ne veux pas te prononcer là-dessus? Évidemment, vous ne vous faites pas sur ce ton-là parce que ça va être un petit peu agressant. Mais dans votre tête, c'est ce qu'il faut que vous ayez comme attitude. Il faut que vous ayez, faut que vous alliez aux sources d'informations. Hein? Ben, il paraîtrait que quoi? Ben, une telle, là, c'est... Qui ça, une telle? Ben là, José Tremblay ou José Carignan? Tu sais, c'est comme, aie le courage, hein, de déclarer tes sources et de nommer les choses telles qu'elles sont. Pourquoi tu dis ça, il paraît que? Tu l'as entendu? Non, mais ça se jase. Qui ça qui a jasé de ça? C'est, tu sais, aller au bout de l'information. Parce que sinon, vous allez demeurer dans l'ambiguïté. Une autre stratégie, afin de déstabiliser l'interlocuteur, c'est d'utiliser une réplique qui va de façon contraire à ce qui est attendu. Hein? Ouais, c'est drôle, comment tu t'es habillé un matin? Ah, merci beaucoup! Ça me fait plaisir, ça me tente d'être différent aujourd'hui. Hein? On s'attend des fois à peut-être vouloir rabaisser les gens, mais on a une réponse qui est un petit peu différente de ce qu'on s'attendait. Tu sais, quelqu'un qui passe en avant de vous, qui vous regarde travailler, puis qui veut vous envoyer un message du genre « Hey, t'as pas l'air à travailler fort, toi », puis qui vous dit en crack « pas trop fatigué? » « Non, merci, ça va, je te remercie, il y a tellement peu de monde qui se soucie du bien-être physique des gens au travail. En tout cas, bien, je te remercie, ça me fait penser, je vais prendre une pause tantôt. Bye, bonne fin de journée. » Alors, évidemment, il ne faut pas oublier de ne pas avoir le petit ton baveux que j'adopte aujourd'hui, mais tout ça pour dire que des fois, il y a une façon de déstabiliser les gens en répondant vraiment d'une façon à ce qui n'est pas attendu, justement pour déstabiliser, pour contrecarrer la stratégie. Pour modifier le ton de la discussion, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser l'humour. Hein. Mais évidemment, ce n'est pas un humour cynique. Hein. Le véritable humour, là, pour savoir si c'est de l'humour, c'est de l'ironie ou du cynisme, c'est pas compliqué. Moi, je me dis toujours, quand c'est de l'humour, c'est drôle. Quand on passe un commentaire, un petit peu comme ce que je viens de dire, « Ouais, pas trop fatigué », est-ce que l'intention de la personne, c'est vraiment de nous faire rire? Elle s'attendait-tu vraiment à ce qu'on fasse? Pas sûr, hein? C'était une façon de passer un message. Alors, dites-vous bien une chose, si c'est pas drôle, c'est parce que c'est probablement pas de l'humour. Donc, vous pouvez utiliser également l'humour. Hein? Mon Dieu! « Hey, t'as pas d'allure, toi, là, sais-tu? » »« Ah, je le sais, je me demande comment je suis pour dormir la nuit. » Tu sais, être capable de rire de soi, d'embarquer dans ce que l'autre dit, hein, tu sais, comme, « Ouais, c'était pas fort, c'est là. Oh, t'as raison, Gérard, c'était vraiment pas fort. Mais check-moi bien la prochaine fois, par exemple. » Tu sais, de montrer que, dans le fond, le commentaire qui visait à nous rabaisser, bien, ça ne nous atteint pas. Hein. Dans le fond, on est capable d'en rire. On est capable de rire de soi. On est capable de faire des farces par rapport à ça. Une autre stratégie, c'est pour désamorcer et dépersonnaliser les situations. Il y a une belle façon qui existe, c'est d'utiliser des proverbes, des principes, des dictons, hein? Des façons d'utiliser le « on ». Hein? Alors, c'est l'inverse de la personnalisation. « On hein? ». Faites des phrases toutes faites. « Chacun est unique. Mm. » C'est impossible de tout prévoir. Hein? L'imprévisible, on ne peut pas le prévoir, évidemment. Hein? « Chaque jour suffit sa peine. » Tu sais, quand on lance des commentaires comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute après ça? Pas grand-chose, hein? Ouais, encore une autre gaffe! Ah, personne n'est parfait. Bon, ben, coudonc. OK, il va s'en tourner avec son petit bonheur, hein? En tout cas, moi, je voulais dire ça. Je ne sais pas si... tu ne sais pas, ben, non. Quand on ne sait pas, on peut toujours se l'imaginer. Alors, voilà. Pour faire respecter ses limites, quand vous vous sentez forcé de faire des choses que vous ne voulez pas faire, communiquez clairement votre refus. Ouais ou ouais, c'est pas oui. Et c'est pas non non plus. Est-ce que vous dites oui ou vous dites non? Et là, il y a une distinction à faire entre un oui catégorique, un oui total ou un non partiel. Vous n'êtes pas obligé de dire non puis vous sauvez en courant. Vous pouvez dire non. Par contre, si je fais ça, est-ce que ça peut répondre à ton besoin? Non, pas pour ça. mais là-dessus, je vais pouvoir t'aider. Hey, t'avais dit que tu m'aiderais, là, regarde, là, je sais qu'il va falloir que tu fasses pour moi. Là, tu vas mettre en ordre ces points-là. Tu vas faire, attends un petit peu. Oui, j'avais dit que je t'aiderais. Voici, ce que je suis prêt à faire, c'est ça. Par contre, là, présentement, si tu veux que je le fasse tout de suite, c'est impossible pour le moment. Alors, voyez-vous. Vous dites non, mais vous spécifiez les conditions et vous proposez des alternatives. À ce moment-là, ça fait moins sec, ça fait moins catégorique, et ça va peut-être être plus facile pour vous de répondre à vos besoins. Parce que souvent, quand on se fait manipuler, qu'on veut plaire, qu'on va avoir l'acceptation des gens, dire non, puis sec, puis de sauver en courant, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Alors, le refus partiel est une belle façon, est un bel entre-deux. Voilà. Il y a la belle technique du disque rayé aussi qui existe. Il y a des gens qui ont le tour de ne pas écouter ce qu'on dit. Quand on dit non, c'est non. Hey, là, j'aimerais ça que tu débloques tel budget, Joanne, là, parce que non, je suis désolé, on a déjà dépassé le budget, on ne peut plus se permettre d'écart. Ouais, mais là, écoute, tu sais, c'est pour un projet spécial. Vous répétez la même chose, sur le même ton. Pas plus fort, pas plus faible, les mêmes mots. Non, je suis désolé, on a déjà dépassé le budget, on ne peut plus se permettre d'écart. Ouais, mais là, qu'est-ce que c'est ça, cette espèce de règle de con? Là, ça ne marche pas, garde. Comment tu veux qu'on arrive à quelque chose dans ce département-là si tu nous bloques tout le temps les affaires? Garde-moi, là, Non, je suis désolé, on a déjà dépassé notre budget et on ne peut pas se permettre d'autres écarts. On appelle ça la technique du disque rayé. C'est comme les vieux 33 tours qui sautent. Hein? Clop, clop, clop. Ça répète toujours la même chose avec le même ton. L'idée, par contre, c'est de jamais hausser le ton. Il y en a qui ont le temps de dire non, non, non! Là, vous allez créer une escalade. Mais si vous répétez toujours sur le même ton, avec les mêmes mots, employés, à un moment donné, vous allez l'avoir à l'usure. Il va bien se rendre compte que ça ne marche pas. Et ce que vous faites en utilisant cette tactique-là, c'est que vous manifestez votre fermeté. Vous dites, ben oui, je suis prêt à écouter, j'entends ce que tu me dis, je comprends ce que tu amènes, mais c'est non, malheureusement. Puis vous n'êtes pas obligé d'être complètement désintéressé pour ça. Vous pouvez dire, je comprends ton point de vue, mais... Et finalement, une dernière stratégie, c'est de mettre le comportement de manipulation à découvert, mais pas de n'importe quelle façon. Ça a été prouvé que dans la majorité des cas, quand la personne qui manipule voit son jeu découvert, hein, quand on a ouvert grand, elle va arrêter sa tactique. Par exemple, je vais juste retrouver mes exemples. Voilà. Quand on essaie, par exemple, de nous flatter dans le sens du poil, hein, quelqu'un va nous dire, par exemple, « Ah, ouais, donc, tu sais bien, tu vas faire ça pour moi, etc. » Quand vous êtes conscient de la manipulation à ce moment-là, bien là, vous allez essayer de le mettre à découvert, de dire, pas de dire, « Tu me manipules, Lara, je te vois clair, je vois clair dans ton jeu. » Faites pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Mais vous pouvez peut-être vous permettre d'envoyer un petit commentaire du genre, « Hey, tu ne penses pas vraiment que c'est par la flatterie que tu vas m'avoir, là? Hey, essaie-toi pas, là, j'ai vu ton jeu, tu sais. » Alors, sur un petit ton taquin, au même titre qu'il vous a taquiné en disant, « Ah, ouais donc, vous répondez sur le même ton. Ben, ça ne marche pas, là, tes petites tentatives de séduction puis de charme avec moi, là, aujourd'hui. Là. Je sais que d'habitude, ça marche, mais là, ça ne marche pas, matin. Ah, OK, ben, vous venez de le désarçonner. Hein? Tu dis pas ça juste pour me faire sentir coupable, toujours? Oups! On vient de dévoiler le jeu, hein? Parce que c'était effectivement l'intention de la manipulation, de faire sentir l'autre coupable. C'était la stratégie de culpabilisation qui est employée. À ce moment-là, on vient de la désamorcer. Hein? Je pense que vous essayez de m'en passer une petite vite, là, vous, là, il manque des informations dans ce dossier-là. Oups! Alors, ça va finir en queue de poisson, fort heureusement pour vous. Voilà. Pour les cas extrêmes... Malheureusement, il y a des comportements de manipulation qu'on réussit à contrecarrer, mais il y a vraiment des cas sévères, et ceux-là, on peut vraiment les appeler les manipulateurs et les manipulatrices. Alors, ce qu'il faut retenir pour cette personne-là, ne restez pas seul le soir quand le monstre court dans les rues. Hein? Pourquoi? Bien, parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est gardez-vous des témoins. Arrangez-vous pour qu'il y ait une tierce personne. Dans les cas graves, là, vous savez que vous faites affaire avec un manipulateur, vous savez que vous allez être déjoué, vous savez qu'il va vous avoir tout rond. Arrangez-vous pour qu'il y ait des personnes avec vous. un chaperon, un témoin, une tierce personne, votre mononcle, peu importe, là, mais arrangez-vous pour ne pas être seul. Comme ça, bien, ça ne sera plus seulement une parole contre une autre parole. À vos marques, prêts, enregistrés. J'imagine que ce que tu vas me dire, tu es à l'aise à ce qu'on l'enregistre. Hein? Il y a des cas où, effectivement, l'enregistrement permet d'atténuer beaucoup de stratégies. On parle de cas extrêmes, évidemment. Mais sans aller jusqu'à l'enregistrement, vous pouvez consigner, écrivez. Hein? Si les comportements de manipulation sont assez sévères pour se rendre au harcèlement psychologique, ce qu'on va vous conseiller, c'est de monter un dossier, d'écrire, de consigner par écrit. Hein? Les paroles s'envolent et les écrits restent. Quand vous recevez des courriels, envoyez-en en copie conforme à d'autres personnes. Ça, les manipulateurs n'aiment pas ça. Hein? Parce qu'une des stratégies qu'ils utilisent, c'est de créer des alliances avec des gens. Ils vont dire une affaire à l'autre, ils vont venir à l'un, ils vont dire le contraire, ils vont impliquer une troisième personne. Hein? Ils fonctionnent toujours en caucus privé. Alors, quand on décide de jouer la transparence, puis qu'on met tout le monde dans le même bain, on fait une conférence téléphonique, on envoie tous les courriels par copie conforme, bien, ça aide à déjouer ces stratégies-là. Si les gens vous parlent de vive voix, dites « Écoute, envoyez-moi ça par courriel, là, puis décrivez-moi toutes vos interventions. Je vais pouvoir ranger ça dans le dossier. » Alors, ça va être consigné par écrit à ce moment-là. Ça vous fait des preuves. Troisième stratégie, n'oubliez pas que tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. Ce que ça veut dire, c'est si vous faites vraiment affaire avec un manipulateur chevronné et expert en la matière, dites-en le moins possible. Parce que plus il va avoir d'informations sur vous, sur ce que vous faites comme travail, sur les décisions que vous avez prises, plus ça va lui servir d'arme pour pouvoir vous attaquer et vous contrer. Alors, restez discret, dites-en le moins possible, faites votre travail, n'en rajoutez pas. Et finalement, sauvez-vous. Ce que ça veut dire concrètement, c'est quand vous voyez un monstre comme ça, là, bien, votre réflexe, c'est de vous sauver. On ne peut pas essayer de comprendre. T'sais, vous savez, on est des bonnes âmes. Il y a des gens qui ont le cœur sur la main, qui veulent essayer de les comprendre, les manipulateurs, puis de les sauver, hein, puis d'excuser leurs intentions. Mais dans le fond, je le connais. Là, je sais qu'il est croche dans sa façon de faire, mais c'est un bon gars, dans le fond. C'est une bonne fille. Puis ce qu'elle veut, c'est vraiment juste, elle a juste besoin de reconnaissance, etc. On n'est pas à l'étape d'excuser les comportements. Hein. Parce que si on essaie juste de parler des intentions, on va se rendre compte que tout le monde, dans le fond, a souvent des bonnes intentions. Il y en a des macros, là. Il y en a des traîtres, puis des gens là, qui sont très magouillards, puis qui veulent votre perte et votre destruction. Mais il y en a beaucoup plus au cinéma que dans la réalité. Il y en a dans la réalité. Il y en a quelques personnes qui sont très perverses en la matière. Mais je vous dirais, la majorité du temps, les gens ont des bonnes intentions. Alors, imaginez que vous vous retrouvez dans une jungle, il y a un lion qui vous attaque et qui est en train de vous décapiter. Bien, vous ne vous dites pas, oui, mais dans le fond, son intention, c'est parce qu'il a faim, pauvre petit chat. Hein? On n'est pas en train d'essayer de comprendre ses intentions, là. On est en train de sauver sa peau. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand je vous dis que la manipulation, ça ne se vainc pas, ça ne se gagne pas, ça se déjoue, ça se neutralise, c'est de ça dont on parle. Voilà. Est-ce que je suis dans les temps? Alors, j'ai pris un petit 5 minutes de plus. Je voulais laisser un petit peu de temps avant qu'on termine pour une période de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des commentaires à livrer, des questions, des objections à votre honneur. Oui?
Mm-hmm. Mais
Alors, je vais juste reformuler. Donc, ce que vous dites, c'est que quand on se retrouve dans un groupe où il y a une espèce de pensée de groupe, hein, tout le monde pense, il y a quelqu'un qui dit haut et fort, « Hey, ils sont de même, eux autres, et puis tout le monde pense la même chose. » On n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est un peu pris là-dedans parce que la majorité bien pensante qui semble nous happer hein, dans ça. Effectivement, ce n'est pas facile parce que là, vous avez l'impression de faire front commun. Les gens font front commun contre vous. Vous avez l'impression de vous attaquer à un groupe. Par contre, je vous encourage à tenter votre chance. Pas nécessairement en disant, moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite arriver avec le désaccord et vous opposer au groupe. Par contre, il y a une façon de l'amener. Vous dites, bien, oui, je reconnais que c'est vrai que dans certaines situations, mais j'aimerais ça apporter une petite nuance, par contre. Il faut quand même leur reconnaître que hein, ce groupe-là, hein, ou telle chose. Et vous allez être surpris de constater que même si tout le monde dans le groupe fait comme Ah oui, il y en a peut-être qui vont aussi se rallier avec vous et qui vont adhérer à vos propos et qui vont dire ben dans le fond, c'est vrai. Hein. Ils n'osaient peut-être pas, eux autres, le dire, mais effectivement.
C'est...
Effectivement, ils vont faire partie effectivement du 60 % tout à fait. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Puis je vous dirais, toutes les suggestions... Oups, pardon. Je vais finir par défaire tout le système informatique. je vous dirais, toutes les stratégies de neutralisation que je vous ai présentées, ça se fait avec la pratique et l'essai et l'erreur. On n'arrive pas du jour au lendemain en disant, bon, mais parfait, je t'ai équipé. Watch out les manipulateurs, les manipulatrices, je vais vous avoir... ça prend quelques fois, et à un moment donné, on commence à reconnaître les stratégies qui reviennent à la longue, plus souvent. Et on essaie des choses. Oups, on se rend compte que ça ne marche pas avec cette personne-là. C'est du cas par cas, effectivement. Mais tenter quelque chose, effectivement, pour ne pas être inclus là-dedans. Oui, une question à l'avant.
Oui, est-ce moyen d'avoir votre présentation PowerPoint?
Oui, vous avez simplement qu'à venir me voir pour me laisser votre carte d'affaires, puis je pourrai vous l'envoyer à ce moment-là. Alors, je vais juste terminer, par contre, avec la période de questions. Est-ce qu'il y en a d'autres commentaires? Ça va?
Est-ce que les manipulateurs sont plus brillants que les autres? Ou il faut qu'ils soient plus brillants?
Pas nécessairement. Ce n'est pas une question d'intelligence. Il y a des gens qui sont... Effectivement, il y a des personnes qui manipulent et qui sont très intelligentes. Il y en a d'autres qui vont manipuler, mais ça va fonctionner seulement qu'une catégorie de personnes parce que d'autres vont être capables de les rabrouer, ça ne prendra pas de temps. Non, ce n'est pas une question d'intelligence. Mais je vous dirais, les forts manipulateurs, ceux qu'on a de la difficulté à se dépêtrer de leur filet, habituellement, effectivement, il y a un lien qui est fait avec l'intelligence. Oui. Mais ça peut être, comme on le disait, conscient ou inconscient. Quand c'est conscient, on peut servir de notre intelligence pour user de stratégies et influencer les autres. Mais il y a des gens qui le font de façon inconsciente. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont baigné dans la manipulation depuis qu'ils sont jeunes. Alors, ils l'ont intégré tout naturellement parce que leurs parents usaient de manipulation, leur entourage usait de manipulation. Ça devient pour eux comme une seconde nature. À ce moment-là, c'est fait de façon instinctive, naturelle, presque, et l'intelligence ne vient pas interférer dans leurs actions. Est-ce que ça répond à la question? Parfait. Alors, pour terminer, je voulais simplement vous faire des propositions de lecture pour ceux et celles qui voudraient un petit peu aller plus loin. Alors, outre le livre de Mme Nazaraga, il y a un livre qui s'appelle « Tous manipulés, tous manipulateurs ». Alors, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus intellectuel. Alors, ceux et celles qui voudraient en savoir un petit peu plus de façon générale sur la manipulation dans son ensemble. Alors, pas nécessairement les comportements manipulateurs, mais la manipulation dans le monde commercial, dans la publicité, vraiment tout ce qui est le phénomène de manipulation. On a aussi un ouvrage qui s'appelle « Ces gestes qui manipulent et ces mots qui influencent ». Alors, il y a quelques lignes intéressantes dans ce bouquin-là, entre autres les personnes qui s'intéressent à la synergologie, donc être capable de lire et d'interpréter le langage non-verbal. Alors, il y a certains gestes que les personnes qui manipulent utilisent, alors pour être capable de les décoder, et être capable de dire « Ah, attention! Hein? » Comme par exemple, le mensonge. Hein? On dit souvent que les gens qui mentent vont souvent se toucher le visage, gratter le nez, jouer dans les yeux, etc. Donc, il y a toutes sortes d'indices comme ça, la pupille qui se dilate quand on ment. Donc, toutes les réactions physiques du corps qui viennent nous aider à repérer certains indices de manipulation. Et il y a un dernier livre aussi que je pourrais vous suggérer, qui est une Américaine qui a écrit le bouquin qui s'appelle « Ces gens qui tirent vos ficelles, comment échapper aux manipulateurs ». Alors, ce que je vous propose, ce sont des ouvrages qui sont généralement bien vulgarisés et qui sont appliqués à des situations de la vie courante. Ma présentation traitait beaucoup de la manipulation dans le cadre du travail, mais vous pouvez, je pense, très facilement faire des liens avec votre vie personnelle si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup.